Bonjour les amis et bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité du week-end. Au programme aujourd'hui, les rapports dans l'entre-deux-guerres entre la Tchécoslovaquie et la Russie soviétique au menu de la légendaire rubrique littéraire animée par Václav Richter. Et avant cela, du cirque nouveau avec une compagnie française en guest star du festival Letni Letna. Bonne écoute à tous et à toutes. Pour la toute première fois, la compagnie Rasposo de France se produit en République tchèque et plus précisément à Prague dans le cadre du festival de théâtre et de cirque nouveau Letni Letna. Le public tchèque peut découvrir cette compagnie familiale, considérée aujourd'hui comme à la pointe du cirque contemporain avec ses 14 représentations du spectacle Morsure. Alžběta Ticha a rencontré la directrice artistique de la troupe, Marie Moliens, dans sa roulotte située à quelques pas du chapiteau dressé sur la colline de l'Etna jusqu'au 3 septembre prochain.
Culture sans frontières.
La compagnie Rasposo, elle a bientôt 30 ans. Elle est née en 1987 et elle a été fondée par mes parents, qui eux viennent du théâtre et ont fondé cette compagnie pour faire du théâtre de rue, du théâtre dans la rue. Donc avec, c'était plutôt au départ des saltimbanques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plus un peu comme... faire de l'acrobatie comme des battleurs avec des animaux, des petits tours de force et juste avec le public comme ça, voilà. C'était vraiment très très précaire. Et petit à petit, il y a des gens qui nous ont rejoints, des artistes qui nous ont rejoints. Et on est devenu de plus en plus vraiment une troupe. Et après, nous les enfants, donc on a toujours travaillé depuis tout petit avec nos parents. On a fait l'école Fratellini à Paris. Et à partir de là, on a dit, maintenant, on fait du cirque, on ne fait plus du théâtre de rue. Donc après, on a acheté notre premier chapiteau. Et maintenant, ça fait presque 15 ans qu'on fait du cirque sous chapiteau.
Mm-hmm. Voilà. Donc, vous êtes d'une famille artistique ou d'une famille d'artistes. Ouais. C'était depuis toujours votre choix de faire du cirque ou vous avez eu des doutes, orienté vers un autre domaine?
En fait, c'est vrai que je suis un peu baignée dedans depuis que je suis une enfant de la balle, on peut dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, avec la crise de l'adolescence, je voulais faire vétérinaire. Je voulais soigner les animaux parce que je suis très proche des animaux. Mais après, j'ai vite compris que ça allait pas être quelque chose pour moi et que en fait, ma vie, ce qui me correspondait le plus, c'était de continuer comme mes parents.
Comment s'est passé ce changement vers le cirque nouveau?
La compagnie, elle est née aussi à peu près en même temps que le cirque contemporain en France. Enfin, moi, depuis toute petite, j'ai vu les premiers cirques contemporains de Plume, Arcaos, Zingaro, tout ça, tous les précurseurs du cirque contemporain, je les ai vus en spectacle. Donc moi, j'ai été nourrie très très vite de tous ces influences. Et puis là, pour la compagnie Rasposo, c'était assez évident puisque mes parents venaient du théâtre. Ils étaient très attirés par le monde forain, le cirque et les battleurs de théâtre de rue. Et donc, on a mélangé toutes les disciplines. C'est des arts qui se sont croisés.
Mm-hmm. Morsure, c'est le spectacle qu'on peut voir maintenant ici à Prague. C'est à peu près votre 15e spectacle, mm-hmm. si je me suis bien renseignée. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Oui, alors Morsure, c'est le 15e spectacle de la compagnie Rasposo, mais c'est le premier spectacle que j'ai mis en scène. Parce qu'au fait, avant, c'était ma mère qui était directrice artistique. Et à partir de Morsure, on m'a passé le flambeau. Et donc, c'est ma première mise en scène et première écriture. Voilà. Alors, Morsure, c'est pour moi un sentiment fort qui était en moi et que je voulais donner au public. C'est un peu parler de la férocité des rapports humains. Et d'une violence contenue, surtout un sentiment féminin qu'ont les femmes à l'intérieur d'elles.
J'ai vu que vous mélangez beaucoup de genres théâtraux. Mmh. Quelles sont les principales parties qui font le spectacle? Vous êtes fil-de-feriste.
Ah oui.
Et d'autre part, il y a beaucoup de la danse. Mmh.
Ah oui, je vois. Oui, alors effectivement, dans Morsure, c'est la première fois qu'on travaille avec un chorégraphe. Donc c'est aussi un spectacle très chorégraphié. Parce que moi, je suis aussi très amoureuse de la danse contemporaine. Et je trouve que finalement tous ces arts ils sont assez proches et puis pour arriver à un art total mélanger de la danse, du théâtre et du cirque et de la musique évidemment puisqu'il y a des musiciens en direct on arrive à quelque chose de complet.
Mm-hmm. Quelle est la place d'improvisation dans chaque spectacle?
L'improvisation elle est surtout dans l'interprétation des personnages, enfin des artistes. En fait, nous on leur donne plutôt des traits de caractère et après chaque artiste en fait ce qu'il veut et modèle ce qu'il veut à l'intérieur.
Combien de temps ça prend d'arriver du début jusqu'au spectacle dans cette forme?
Alors pour Morsure, le processus a été relativement long. On a commencé à penser au spectacle au moins 3 ans en avant, avant la première représentation. Parce que d'abord, il y avait aussi une nouvelle discipline qu'on devait apprendre. On a appris tous pour ce spectacle la barre russe, donc la discipline avec la barre. On est tous débutants, on va dire, entre guillemets, sur ça. Donc on a fait beaucoup de travail de stage avec des coachs professionnels qui nous ont enseigné cette discipline. Et puis, par rapport à l'écriture, moi, je lui ai mis, j'ai fait plusieurs essais, entre guillemets, des sorties de résidence. Où j'ai commencé à chercher mon univers avec et à chercher en même temps l'équipe qui allait correspondre à Morsure.
Mm-hmm. Pouvez-vous maintenant présenter un peu la troupe actuelle? Mm-hmm.
Alors, dans la troupe, le noyau vraiment de la compagnie, ce sont les musiciens. Les musiciens sont avec nous déjà depuis 10 ans. Et donc, c'est eux qui composent les musiques pour les spectacles à chaque fois. Et ils sont vraiment maintenant des musiciens de spectacle vivant. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose de très important puisqu'ils nous soutiennent, ils nous suivent. Et c'est vraiment la pulsation du spectacle. Et puis on a toute l'équipe de techniciens aussi qui fait vraiment aussi partie du noyau de la compagnie. Et là sur Morsure, les acrobates sont vraiment spécifiques à ce spectacle puisqu'il fallait pour raconter ce que je voulais raconter vraiment un groupe d'hommes très sanguins et très puissants, voilà. Donc là c'est des acrobates qui viennent de France et qui ont été formés dans les écoles du cirque en France.
J'ai entendu dire que vous avez eu un vrai tigre en France.
Oui,
qui n'était pas ici en République tchèque.
Oui. En France, la scène finale, c'est en fait la dresseuse, c'est une vraie dompteuse. Elle a ses tigres en France. On peut pas passer les frontières. Il y a des lois maintenant. C'est un peu de plus en plus compliqué. Mmh. Et donc la scène finale, normalement, c'est avec un tigre qui apparaît par le miroir et qui.
Et pourquoi ce choix de lier un peu le cirque traditionnel avec le cirque nouveau?
Parce que pour moi, il n'y a pas de frontières. C'est le cirque.
Vous avez aussi gagné un prix, le prix des arts du cirque. Qu'est-ce que ce prix représente-t-il?
Le prix de la SACD. La SACD, c'est la Société des auteurs dramatiques. Et pour moi, c'est une grande reconnaissance, puisque c'est vraiment l'écriture du spectacle qui a été récompensée. C'est mon travail d'écriture sur le spectacle. Et pour une première tentative, en tout cas, je trouve que c'est très beau.
C'est la première fois que vous êtes ici en République tchèque. Dans quel pays vous présentez vos spectacles habituellement? C'est surtout en France ou...
On tourne beaucoup en France. Avec Morsure, on est beaucoup allé en Europe, limitrophe. On a été en Italie, en Espagne, en Hollande, en Belgique. Et puis... avec un précédent spectacle, on est très fiers d'être allés à Montréal. Donc on a traversé l'Atlantique avec le chapiteau, c'était toute une épopée.
Suivez-vous aussi un peu ce qui se passe au niveau du cirque nouveau dans d'autres pays, comme par exemple en République tchèque? Voyez-vous des différences, par exemple?
Je pense que c'est juste qu'on n'en est pas vraiment au même endroit dans le parcours, dans l'émergence. C'est vrai qu'en France, c'est déjà depuis 30 ans que ça existe. Dans d'autres pays d'Europe, c'est tout juste en effervescence pour l'instant. Mais c'est les mêmes directions.
Et la dernière question, avez-vous déjà d'autres projets après Morsure?
Et oui, puisque du coup, on va faire à Prague, ce sera les dernières représentations de Morsure. Et donc, dès le mois d'octobre, on commence les répétitions pour un prochain spectacle en 2016.
Vous pouvez déjà dévoiler un peu.
Ça sera un spectacle sur la femme de cirque. Voilà, donc beaucoup plus féminin comme spectacle.
D'accord, merci Marie-Maliès.
Merci à vous.
Dans sa rubrique littéraire, Václav Richter vous présente un entretien avec l'auteur du livre consacré au rapport entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique et qui explique, entre autres, comment la Tchécoslovaquie démocratique s'est retrouvée en 1948 au seuil d'un régime totalitaire.
Rencontre littéraire. La carrière de Jaroslav Chedivy a été longue et riche. Né en 1929, il travaille d'abord dans des instituts de recherche. Après l'invasion soviétique en 1968, il est emprisonné pendant 6 mois et puis chassé de la vie publique. Après la chute du régime totalitaire, il est nommé en 1990 ambassadeur à Paris, ce qui est le début d'une brillante carrière diplomatique qui le propulsera jusqu'au poste de ministre des Affaires étrangères. Fort de ses expériences, il a publié plusieurs livres sur l'histoire moderne et ancienne, dont « Osudné spojenectví, une alliance fatale, Prague et Moscou, 1920 à 1948 », sorti récemment aux éditions Mladá Fronta. Voici la seconde partie de l'entretien sur ce livre que Jaroslav Chedivy a accordé à Radio Prague. Passons maintenant à l'année fatale 1938. Après la signature des accords de Munich qui ont livré pratiquement la Tchécoslovaquie à Hitler, on a beaucoup discuté le rôle de l'Union soviétique et cette discussion continue encore. L'Union soviétique voulait-elle ou pouvait-elle intervenir en faveur de la Tchécoslovaquie?
La réponse est relativement simple. L'Union soviétique proclamait 2 fois qu'elle est prête de venir aider à l'armée tchécoslovaque si elle va commencer la bataille de défense contre l'attaque de l'armée allemande. Mais Moscou a toujours souligné la deuxième condition pour cette activité soviétique, c'est-à-dire si les Français vont remplir leurs devoirs d'après le traité d'assistance mutuelle et viendront du côté de l'Ouest à l'aide pour la Tchécoslovaquie, ce que les Français refusaient. Et à votre question, pouvait-elle Moscou intervenir en faveur de la Tchécoslovaquie en 1938 toute seule? La réponse, bien sûr théorique, est non. Par quelle voie? À travers la Pologne? Impossible. Ça serait un nouveau conflit. L'aviation à travers la Roumanie? Impossible. Le roi Carole s'est refusé. Alors,
Pendant la guerre, la Tchécoslovaquie occupée a été représentée par un gouvernement exilé à Londres. À cette époque, le président Beneš a signé un traité d'alliance avec l'Union soviétique. Vous expliquez ces motifs dans votre livre. Pourquoi a-t-il signé ce document?
Le président Beneš, dans sa politique en exil à Londres, avait deux buts principaux. Premièrement, annuler des accords de Munich, ce que, en principe, le gouvernement britannique en 1942 et français en 1944 ont fait, ont signé. Et deuxièmement, il voulait préparer la position internationale de son pays après la guerre. Et il a bien compris que le rôle de l'Union soviétique en Europe de l'Est sera dominant après la guerre. Beneš surestimait la signification des accords diplomatiques. Et par cette voie, c'est-à-dire la négociation diplomatique, il voulait désigner d'avance les contours des futures relations tchéco-soviétiques. Mais, en même temps, Staline pensait déjà à la création du bloc soviétique en Europe après la guerre. Beneš a proposé de signer un traité d'alliance avec Moscou, ce qui se passait au mois de décembre 1943. L'article 4 contenait l'obligation de ne pas se mêler dans les affaires internes des partenaires. Pour Beneš, cette obligation était principale. Staline, il voyait dans ce traité le départ pour former le bloc soviétique après la guerre. D'abord, par le réseau des accords semblables avec d'autres pays futurs socialistes et aussi entre ces pays ensemble. Mais il faut ici ajouter une remarque. Staline pouvait suivre une telle politique en Europe de l'Est parce que ses partenaires, pendant la conférence à Yalta en février 1948, c'est-à-dire Churchill et Roosevelt, sont pratiquement arrivés à la reconnaissance du rôle Staline là-bas. C'était l'armée soviétique qui a libéré une grande partie de ce territoire, y compris la Tchécoslovaquie. Et Staline savait très bien exploiter cette préférence.
Vous démontrez dans votre livre les conséquences des conférences tenues vers la fin de la guerre à Téhéran et à Yalta pour l'influence soviétique sur la politique tchécoslovaque. À partir de quel moment l'Union soviétique a commencé à considérer la Tchécoslovaquie comme faisant partie de sa sphère d'influence? Dans quelle mesure c'était dû au fait que l'armée soviétique a libéré en 1945 une grande partie du territoire tchèque?
En ce qui concerne Yalta, je viens de parler déjà. Écoutez, je vous dirai un détail très intéressant pour expliquer tout ça. Au début des années 50, le premier secrétaire du Parti communiste hongrois, Rákosi, a mentionné dans un séminaire communiste un épisode. Dans l'année 1943, à Moscou, Staline invitait le premier secrétaire du Parti communiste de quelques pays centra-européens qui étaient pendant la guerre en exil à Moscou. Parmi ces invités était aussi le président du Parti communiste tchécoslovaque Klement Gottwald. Pendant cette rencontre, Staline a expliqué que ces pays seront libérés par l'armée soviétique, bien sûr. Mais, d'après lui, il ne serait pas raisonnable tout de suite former le gouvernement communiste là-bas, mais négocier le nouveau gouvernement sur la base de la Front nationale ou de la Front populaire. Ces gouvernements doivent être amicaux vers Moscou et il croyait que dans un jeu politique, les communistes vont triompher. Nous connaissons très bien le cas de Prague. Khrushchev, dans ses mémoires, dit que la Tchécoslovaquie était pour Staline le plus important point dans ses imaginations de la future bloc soviétique, pour des raisons économiques, politiques et surtout militaires.
Comment s'est manifestée cette influence soviétique dans la vie politique et économique de la Tchécoslovaquie après la guerre?
Vous savez, Moscou était très attentif en ce qui concerne l'évolution dans notre pays. Mais Gottwald, il était à cette époque déjà président du gouvernement tchécoslovaque. Il était relativement libre dans son gouvernement. Staline, quand même, dans deux cas, a usé de contraintes envers le gouvernement tchécoslovaque. Le 5 juin 1947, le ministre américain Marshall a présenté le plan américain « Comment aider, surtout économiquement, à l'Europe ». À Prague, le gouvernement a déclaré d'abord sa participation à la réalisation de ce plan. Et en même temps, dans ce jour-là, les négociations concernant éventuels traités d'amitié avec la France étaient déjà avant la signature de ce traité. En ce moment, le 9 juillet 1947, une délégation du gouvernement tchèque avec Gottwald et encore avec le ministre des Affaires étrangères Jan Masaryk ont été accueillis par Staline à Moscou, qui leur a dit dans cette deux questions non. Non au plan Marshall, non au traité d'amitié ou de coopération avec la France. Jan Masaryk, après l'arrivée à Prague, c'était le 10 juillet, a déclaré « À Moscou, je suis allé en tant que ministre des Affaires étrangères. Maintenant, je suis rentré en tant que le serviteur de Staline. »
Voilà, c'est la fin de notre émission qui s'achève avec cet entretien proposé par Václav Richter. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Cette émission vous était présentée par Pierre Ménian. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site internet www.radio.cz/fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou bien sur Facebook. À très bientôt, à Roy.